Coucou Roby.
Bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être parmi vous ce matin. Ça fait plaisir de revoir des amis, des proches, des connaissances et puis de faire de nouvelles connaissances, d'apprendre à mieux connaître votre communauté. Peut-être quelques mots pour me présenter. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand quelqu'un prend la parole, j'aime bien connaître un peu l'arrière-plan de la personne. Alors, comme ça a été dit, je m'appelle Yves Duchesne. Je suis pasteur à Charleroi. J'ai 30 ans. Je suis jeune. Je suis marié depuis 5 ans. Mon épouse s'appelle Aurélie et depuis bientôt 3 mois, nous sommes tous les deux parents d'un petit garçon qui s'appelle Nathanaël. J'aime bien préciser qu'un enfant, c'est beaucoup de joie et c'est beaucoup de fatigue aussi, ce qui fait que je n'ai plus beaucoup, ces derniers temps, je n'ai plus vraiment toutes mes heures de sommeil. Je ne vais pas m'endormir pendant le message, donc je vous demande de ne pas vous endormir pendant le message. Les gens du premier groupe ne se sont pas endormis et je vous surveille. Voilà, voilà. Croire en Dieu malgré la souffrance, ou continuer à croire, si vous êtes déjà croyant, si vous êtes chrétien, croire en Dieu malgré la souffrance, est-ce vraiment raisonnable? C'est la question que j'ai à cœur de partager avec vous, d'aborder ce matin. Mais avant, j'aimerais prier, si vous le permettez. Je vous invite à courber vos têtes et fermer vos yeux. Seigneur, c'est par ta grâce ce matin que nous sommes là. Tu as dit que lorsque tu auras été élevé, tu attirais les gens à toi. Et c'est à cause de cette promesse que nous faisons appel à toi. Nous prions pour une œuvre de ton esprit dans les cœurs. Tu connais chaque personne ici présente, croyante ou incroyante. Là où il y a des doutes, des questions, des objections peut-être, nous prions pour que tu te révèles, Seigneur, au travers de ta parole, au travers de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce privilège que nous avons de nous rassembler et d'être à ton écoute ce matin. Gloire à toi Seigneur. Amen. Nous allons parler de la souffrance. Alors, j'aimerais dire d'emblée que la souffrance est un sujet qui est sérieux. Ce n'est pas un sujet qu'on aborde avec légèreté. Quand on réfléchit à la souffrance, c'est un sujet qui trouve un écho, qui fait écho en chacun d'entre nous. Je pense que chacun d'entre nous, quand on réfléchit, on a peut-être des témoignages à ce sujet, des situations complexes au niveau personnel, au niveau familial, des déceptions, des cœurs brisés peut-être. On n'aborde pas la souffrance à la légère. La souffrance, c'est aussi un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations. Quand il nous arrive quelque chose, on se pose souvent la question « Pourquoi ? Quel est le sens de tout ça ? Pourquoi moi ? Et pourquoi pas lui ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi telle ou telle circonstance ?» Et j'aimerais dire d'emblée que face à la souffrance, il n'y a pas de réponse rapide et il n'y a pas de réponse simpliste. Il n'y a pas une formule magique, il n'y a pas une formule mathématique à donner en disant « Voilà la réponse et voilà comment résoudre tous vos problèmes et ne plus jamais souffrir. » Pas de réponse rapide. Pas de réponse simpliste. Les questions que l'on se pose quand on souffre, ce sont des questions honnêtes. Et je suis convaincu que ces questions méritent des réponses tout aussi honnêtes. Ce matin, je n'ai pas la prétention de vous parler en tant que donneur de leçons. Alors j'ai la délicate tâche en tant que pasteur de vous parler, et en tant que pasteur j'enseigne régulièrement la parole de Dieu, alors on serait tenté de dire « Ah ben le monsieur il prêche pour sa propre chapelle », c'est pas le cas, je veux pas venir à vous ce matin en tant que donneur de leçons. Sachez qu'avant d'être pasteur, avant d'être chrétien, je suis un être humain. Quand je suis venu au monde, je ne suis pas né chrétien, je ne suis pas né pasteur, d'ailleurs on ne naît pas chrétien, on devient chrétien par choix. Je suis né en tant qu'être humain. Et en tant qu'être humain, comme chacun d'entre vous, moi aussi j'ai mes questions, moi aussi j'ai mes doutes, moi aussi j'ai mes problèmes, moi aussi j'ai mes souffrances. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que le soleil brille toujours au-dessus de ma tête. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que tout va bien dans ma vie. À la fin du mois, j'ai aussi mes factures, j'ai mes problèmes relationnels, j'ai mes difficultés aussi. Il m'arrive parfois même d'avoir des doutes, d'entrer en bras de fer avec Dieu. Entrer en bras de fer avec Dieu, c'est que quand on souffre, il y a un désaccord en nous et on dit « Seigneur, j'aimerais te demander des comptes, je me pose des questions ». Ça m'arrive parfois d'entrer en bras de fer avec Dieu. Quand on réfléchit sur la souffrance, ça demande de l'humilité. Parce que la souffrance nous rappelle une chose qui nous dérange, mais une chose qui est bien vraie. Nous ne sommes que des hommes, nous ne sommes que des êtres humains. C'est un sujet qui est empreint de mystère. C'est exactement comme la conscience humaine, comme le cosmos ou le temps. Lorsque j'étudie ces sujets, je réalise que je suis une créature qui a un commencement, une fin, je suis fragile, je réfléchis à des réalités qui me dépassent. Tout à l'heure, je vous ai parlé de mon fils Nathanaël. Je vous ai dit que c'était une merveille, j'en suis convaincu. Hein. C'est un fils qui fait vraiment notre joie. Il est venu au monde le 13 septembre, ça s'est passé ici à Woluwe, pas dans l'église, mais à l'hôpital Saint-Luc. Ça a été vraiment un moment extraordinaire. Je partageais au premier groupe que ma grosse question, c'est est-ce que j'ai tombé dans les pommes ou pas pendant l'accouchement. Finalement, ça s'est très bien passé. Un jour extraordinaire, la naissance de Nathanaël. Mais j'aimerais que vous sachiez que les choses n'ont pas toujours été ainsi pour mon épouse et moi. Ça n'a pas toujours été aussi magique et aussi merveilleux. Avant d'avoir Nathanaël, il y a eu un parcours de 4 ans. 4 ans pour avoir un enfant. Ce sont 4 années où les fausses couches se sont enchaînées dans notre couple. 8 fausses couches au total que nous avons encaissées. 4 années où nous sommes passés d'un médecin, d'un spécialiste à l'autre. Le parcours a commencé à l'hôpital à Namur, à Sainte-Élisabeth, et il s'est terminé ici à Saint-Luc, à Bruxelles. En passant d'un médecin à un autre, nous n'avions aucune réponse. Aucune réponse médicale, aucune. Les médecins disaient, on ne sait pas, on passe leur lait à un autre spécialiste. Et on a tourné en rond comme ça pendant 4 ans. À 2 reprises, Aurélie et moi, nous avons subi le traumatisme de voir sur l'écran le cœur éteint de 2 de nos bébés. Le médecin muet. Je suis désolé. Nous le sommes aussi, c'est pas de sa faute. En plus de tous ces deuils à répétition, parce que quand mon épouse découvrait qu'elle était enceinte, il y a de la joie, on se met à rêver, à préparer la chambre, et au moment où le bébé n'est plus là, c'est un deuil. En plus de tous ces deuils à répétition, mon épouse a subi à plusieurs reprises des opérations importantes, des opérations humiliantes pour une femme. Et ce qui devait arriver arriva, mon épouse est tombée dans la dépression. Et moi, je l'ai vue sombrer. Impuissant. Je ne savais pas quoi faire. Les médecins nous ont dit alors froidement, certains médecins ont pris des pincettes, d'autres n'ont pas pris de pincettes, ils nous ont dit que ce projet d'avoir des enfants, ce ne serait pas pour nous. Un médecin nous a même dit, comme ça, vous avez qu'à essayer avec d'autres partenaires. Désespérés, déprimés, nous avons accepté cette réalité. D'une certaine façon, quand je songe à ces choses-là, je me dis que l'histoire d'Aurélie et moi n'est pas extraordinaire. Je pense que chacun d'entre nous, dans cette salle ici, nous avons des choses à raconter. Nous avons aussi une histoire, nous avons aussi un témoignage. Dans mon église, par exemple, il y a une dame qui a survécu au génocide rwandais. Elle a vu des choses innommables. Innommables. J'ai une de mes paroissiennes dont le mari est alcoolique. Dimanche après dimanche, elle est là fidèlement au culte, mais je sais qu'à la fin du culte, quand elle va rentrer chez elle, elle va devoir à nouveau faire face à cette réalité. Nous avons tous des histoires. Nous avons tous une histoire à raconter par rapport à la souffrance. Pour ma part, je me suis interrogé pendant ces 4 ans, et en tant que chrétien, j'ai crié à Dieu. Je partageais tout à l'heure que c'est une période de ma vie où j'ai certainement fait monter à Dieu mes prières les plus ferventes, si pas les plus enflammées, hein. Comme faire les livres des psaumes, où il y a parfois certaines prières qui sont vraiment enflammées. Et si je dois résumer le contenu de mes prières, ça tient en 4 mots. Où es-tu, Seigneur? Où es-tu? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça? Où es-tu, Seigneur? Je suis pasteur. C'est un comble de dire ça à Dieu. Où es-tu? Parce que j'incarne celui qui est censé enseigner la parole de Dieu. Et en tant que chrétien, j'avais cette conviction. Et je l'ai toujours. Dieu est souverain. Dieu est là. Dieu est présent, Dieu opère, Dieu a un plan parfait. Et pourtant, mes prières formulaient tout le contraire. Où es-tu, Seigneur? J'ai l'impression que ma prière reflète tout simplement mon penchant humain et le penchant de chacun d'entre nous en tant qu'être humain. Quand on souffre, on cherche du sens. Quand on souffre, on cherche des réponses. C'est normal, ça fait partie de notre condition ici-bas. Ce matin, j'aimerais humblement vous partager la réponse que Dieu m'a donnée. Parce qu'en tant que chrétien, et c'est une de nos fiertés, on a un Dieu qui parle. Quand on a des questions, il donne des réponses, il parle au travers de sa parole, la Bible. Et Dieu m'a donné une réponse pendant ce temps de souffrance. Ce n'est pas une réponse exhaustive. Si vous attendez ce matin une réponse exhaustive et la clé de tous les mystères, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. La réponse que Dieu m'a donnée n'est pas une réponse exhaustive. Et encore aujourd'hui, j'ai des questions. Mais je voudrais vous dire que c'est une réponse qui m'a suffi. Et c'est cette réponse-là que j'aimerais vous partager ce matin. J'ai commencé par ouvrir la Bible pour trouver réponse à mes questions. Pourquoi ? Parce qu'en tant que chrétien, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. C'est le message que Dieu adresse à tout homme. Et donc, je me suis dit, si Dieu a des choses à me dire, c'est par là que ça va commencer. Donc, j'ai ouvert la Bible. Alors j'avais un petit peu plus facile, puisqu'étant pasteur, ben, j'ai quelques outils pour savoir m'y retrouver, m'orienter dans la Bible. Ce qui est remarquable, quand on commence à ouvrir la Bible, dès les premières pages, dans le livre de la Genèse, les tout premiers chapitres, le problème de la souffrance est posé. C'est remarquable, puisque Dieu parle, et il sait à qui il parle. Il parle à une humanité pécheresse et une humanité qui est en souffrance. Donc le problème de la souffrance est immédiatement posé quand on ouvre la Bible. Alors en raison du temps dont je dispose ce matin, je me contenterai simplement de faire un bref survol de certaines données bibliques. Je ne vais pas m'aventurer dans tous les textes de façon exhaustive. S'il y a des questions par la suite, eh bien, je vous renvoie au pasteur Steve Orange, à qui je donne du travail, comme je lui ai dit tout à l'heure. Quand on ouvre la Bible, nous découvrons un Dieu créateur. La Bible dit que c'est Dieu qui a créé le monde. Dieu crée d'abord un cadre, un petit peu comme des parents, quand ils vont accueillir un enfant, ils préparent la chambre. Dieu crée un cadre pour la vie. Il crée le ciel, il crée les océans, il crée la terre. Puis la Bible nous dit que Dieu met la vie dans ce cadre. La vie végétale, les plantes, les arbres, la nature, la vie animale, poissons, les oiseaux, les mammifères, les reptiles, les insectes. Et enfin, la Bible dit que Dieu a créé l'homme, une créature qui se distingue de toutes les autres, car elle est porteuse de l'image de Dieu. Il y a cette idée-là qu'on a des points communs, une certaine ressemblance avec Dieu. À la fin de ce récit, qui présente la création comme un chef-d'œuvre dans le musée de Dieu, il y a juste un tout petit verset qui résume comment étaient les choses. C'est Genèse 1:31, je vous invite simplement à écouter, qui nous dit ceci. « Dieu observa tout ce qu'il avait créé, et il constata que c'était très bon. » C'est un petit peu comme nous, quand on a fini de tondre la pelouse, on s'installe et on dit « ça, c'est très bien ». C'est ce que Dieu fait. Tout cela était très bon, dit-il. On remarque que la souffrance n'existait pas dans le monde tel que Dieu l'avait créé. On remarque que la souffrance n'a jamais été son souhait pour nous. Alors la question à 1 000 000 d'euros qui se pose, que s'est-il passé ? Parce que quand j'ouvre la Bible et que je regarde comment étaient les choses, et quand je regarde ce qui se passe dans ma vie, il y a quand même une grande différence. Que s'est-il passé ? La Bible donne réponse et elle dit que Dieu permit aux êtres humains de jouir de tout ce qu'il avait créé. J'ai envie de dire aussi que c'est un des sens de la vie que Dieu nous donne, être heureux dans sa présence, avec lui. Dieu avait permis aux êtres humains de jouir de tout ce qu'il avait créé, à l'exception d'un arbre particulier, nous dit la Bible, c'est le fameux arbre de la connaissance du bien ou du mal. Dans la culture populaire, on imagine que c'est une pomme, peu importe, la Bible ne dit pas que c'est une pomme. Dieu dit à l'homme que le jour où il en mangerait, il mourrait. Hélas, on apprend que l'homme, tenté par le diable, désobéit à Dieu. Désireux de devenir son propre Dieu, il brava l'interdit divin, et à cause de ce péché, il expérimenta pour la première fois ce qu'est la mort, et il expérimenta la réalité du mal et de la souffrance. Toute la création fut corrompue, et les relations avec Dieu ne furent plus jamais pareilles. Alors je ne vais pas discuter ce matin de l'historicité ou du symbolisme de ce récit. Je laisse aussi cela au pasteur Steve Orange, s'il veut aborder la question. Mais je voudrais me contenter tout de même de soulever la pertinence de ce passage dans l'expérience humaine, dans l'expérience de chacun d'entre nous. Quand on regarde ce passage, on y voit la tentation. Qui ici n'est jamais tenté ? Une jolie jeune fille qui passe, ou un beau jeune homme qui passe, ou simplement le désir de posséder ce qu'on n'a pas, ou jalouser le voisin, qui ici n'est pas tenté ? On y voit le doute. Dieu a-t-il réellement dit ? On voit l'homme en train de douter, il remet en question la bonté de Dieu, si ce qu'il dit est vrai, si ça tient la route. On y voit la désobéissance, la rébellion, l'homme qui brave un interdit divin, qui décide de prendre sa destinée en main indépendamment de Dieu. C'est l'essence de la pensée humaniste. Tout par l'homme, tout pour l'homme. On y voit la honte. L'homme et la femme se découvrent nus. Ils sont honteux, ils cherchent à se cacher, à se protéger. On y voit la peur. On fuit la présence de Dieu. On fait comme s'il n'est pas là, on l'évite. On y voit l'adversité. Dieu demande des comptes à l'homme. L'homme dit « c'est pas moi, c'est ma femme ». La femme dit « c'est pas moi, c'est le diable ». On y voit la nostalgie du paradis perdu. Dieu dit à l'homme, à cause de toi, la terre est maudite. On voit que les relations entre l'homme et la nature sont perturbées. Je ne vais pas parler d'écologie, mais effectivement, on voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas réglé. Tentation, doute, désobéissance, rébellion, honte, peur, adversité, nostalgie du paradis perdu. En un mot, que voit-on ? La souffrance. Ce que la Bible dit est pertinent. Ça trouve un écho dans ma vie, ça trouve un écho dans notre vie. D'après la Bible, voilà l'essence de nos interrogations face à la souffrance. au fond de nous, de façon instinctive, de façon intuitive, nous savons que la souffrance est une incohérence. Parce que nous n'avons pas été créés pour souffrir. Et en même temps, dans la Bible, nous découvrons que Dieu a fait les choses simples, mais que l'homme les a rendues beaucoup plus compliquées en se rebellant contre lui. C'est ce que nous appelons le péché, et le péché, c'est ce qui caractérise l'homme. Je pense même qu'il n'y a même pas besoin de la Bible pour se rendre compte qu'on est pécheur. Si on sonde ce qui se passe dans notre cœur, on sait très bien que parfois, on pense des choses qui ne sont pas très glorieuses. Dans mon église, j'aime bien utiliser cette illustration. Imaginez que nous avions un écran de télévision au-dessus de notre tête qui affichait toutes nos pensées. Quel grand moment de honte! Quel grand moment de honte! Nous sommes pécheurs. Quand on est un peu honnête, on sait très bien qu'on pense, qu'on dit, qu'on fait des choses qu'on regrette par la suite. Et parfois, nous subissons les bêtises des autres, ceux qui disent, ceux qui font. Le péché est le propre de l'homme. La rébellion contre Dieu est le propre de l'homme. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter ici juste un instant. J'ai conscience que le fait de parler de la création ou de la chute, ça peut susciter beaucoup de questions. Et si vous avez des questions, c'est très bien. C'est une bonne chose. Parce que quand on se pose des questions, on se met en route vers la vérité, on s'approche de la vérité. Il faut poser des questions, se poser les bonnes questions. Mais comme je l'ai dit, le temps est limité ce matin, alors je me contenterai de soulever juste une question qui me paraît à ce stade être la plus importante. Et cette question est la suivante. Dieu n'aurait-il pas pu faire les choses autrement ? Si Dieu est bon et si Dieu est tout-puissant, alors pourquoi est-ce qu'il me fait naître dans ce monde de souffrance ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait les choses différemment ? Ça, c'est une très bonne question. Je suis convaincu que c'est ce qui bouillonne au fond de notre cœur si on entend la première fois ce récit. Pourquoi Dieu t'a pas fait les choses différemment ? Je réponds à cette question en précisant que c'est pour la même raison que les parents, ou pour la même raison que mon épouse Aurélie et moi, avons voulu notre fils Nathanaël. Par amour. Avant même que notre fils n'existe et ne vienne au monde, nous l'aimions déjà. Avant même qu'il ne naisse, nous avions déjà un nom pour lui. Avant même qu'il n'arrive, nous préparions déjà le cadre dans lequel il allait grandir. La famille, la maison, sa chambre. Nous savions pertinemment bien que Nathanaël viendrait dans un monde de souffrance et que le jour où il pousserait son premier cri, le compte à rebours vers son dernier souffle se mettrait en route. C'est cruel, n'est-ce pas ? Est-ce que ça fait des parents sur Terre des monstres ? Nullement. Pourtant, malgré tout cela, nous avons voulu Nathanaël par amour. Le don inestimable de la vie, le don inestimable de l'existence, lui a été accordé par pure grâce et par pur amour, sans qu'il n'ait fait quoi que ce soit pour exister ou pour naître. Et même si ce monde est corrompu, il faut avouer que nos expériences, qu'elles soient heureuses ou qu'elles soient malheureuses, font toute la singularité de ce que nous sommes aujourd'hui. Pose donc la question, si Dieu avait modifié le cours des événements, si Dieu avait appuyé sur le bouton « Reset », si Dieu avait rebobiné le temps, comme on rebobine une VHS pour ceux qui ont connu les magnétoscopes dans les années 90, si Dieu avait appuyé sur le bouton « Reset », s'il avait rebobiné le temps, êtes-vous certain que vous existeriez aujourd'hui ? C'est très facile de dire à Dieu « Pourquoi tu ne ferais pas ça ? Pourquoi tu ne ferais pas ça ?» Mais quand on y réfléchit, le problème est infiniment plus complexe que cela. Si Dieu avait fait cela, nous pourrions même dire que ce serait la preuve qu'entre ses mains, nous ne sommes que des marionnettes. Pourtant, Dieu nous a vus d'avance. Dieu savait que l'homme allait se rebeller contre lui. Dieu nous a vus pécheurs. Dieu nous a connus d'avance. Et il a choisi de nous aimer. Comprenez ce que le verset le plus connu de la Bible dit, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Lisez ce verset sous l'angle de la souffrance et de la création. « Car Dieu a tant aimé le monde. » Voilà pourquoi. La Bible ne se contente pas de parler de l'origine de la souffrance. Je pense que si la Bible s'arrêtait là, on resterait encore sur notre faim et je peux tout à fait le comprendre. Mais Dieu donne réponse aussi. Et la réponse de Dieu, c'est la croix. La croix. Il est remarquable de constater que le problème de la souffrance est au cœur de la foi chrétienne. Le problème de la souffrance est au cœur, même j'ai envie de dire, de l'espérance chrétienne. La croix, c'est le symbole des chrétiens. Elle est ici. Vous l'avez aussi devant la chair. La croix, c'est un instrument de mort et d'agonie. C'est quelque chose aujourd'hui dans la culture qu'on a tellement banalisé, puisqu'on a l'habitude de dire que la croix, c'est les chrétiens. Mais il faut savoir qu'à l'époque, quand les Romains ont inventé la croix, c'était un instrument de mort et de souffrance pour les pires criminels. Aujourd'hui, on dirait une chaise électrique, une potence, un peloton d'exécution ou une injection létale. C'est ça la croix. C'est ça que ça symbolise pour ceux qui ont un pendentif autour du cou. La foi chrétienne dépeint un Dieu en souffrance sur un instrument de souffrance. Certains crient au blasphème et nous reprochent à nous, chrétiens, d'humilier le Seigneur en le mettant dans une position qui n'est pas très glorieuse. Mais nous, chrétiens, au contraire, nous y voyons la gloire et la splendeur de l'amour de Dieu pour nous. Parce que ce Dieu-là souffre pour nous. Vous savez, quand on aime quelqu'un, ou quand, tout simplement quand on est amoureux, ou quand on a des liens d'amitié, quand il y a de l'amour, quand on aime, on est capable de souffrir pour l'autre. Pour ceux qui sont mariés, si votre conjoint se met à pleurer, vous n'allez pas pouvoir rigoler ou être heureux, vous allez vous inquiéter, vous allez souffrir avec votre conjoint, ou votre meilleur ami, ou votre meilleure amie. Quand on aime, il y a de l'empathie. Quand on aime, on souffre avec ceux qui souffrent, et on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Parce qu'il y a de l'amour. C'est hypocrite de parler d'amour quand on est complètement indifférent. Et Dieu n'est pas indifférent. Dieu nous aime. Est-il donc étrange que Dieu se soucie de nous ? Est-il donc étrange que Dieu vienne à nous, puisque la croix, c'est ce qui s'est passé ici sur terre, c'était pas au ciel, c'était ici, parmi les hommes. Est-il étrange que Dieu vienne à nous s'il nous aime ? Est-il étrange qu'il souffre avec nous ? Est-il étrange qu'il souffre pour nous ? N'est-ce pas là ce qu'exige l'amour ? Le sacrifice de sa propre personne pour le bien suprême de l'autre. C'est ce qu'exige l'amour. Dans mon église, j'ai l'habitude de répéter ça. On me dit que je radote. Je réponds que oui, je suis pasteur. Et à force de radoter, ça rentre dans la tête. Mais il y a tellement de choses qu'on peut faire pour manifester son amour. Moi, par exemple, vis-à-vis de ma femme, je lui ramène des fleurs de temps en temps, ou des chocolats, ou quand il y a les moyens, un petit séjour par-ci, un petit séjour par-là. Mais la plus grande preuve d'amour, l'ultime preuve d'amour, c'est donner sa propre vie. On ne peut pas faire plus que ça. C'est ce que Dieu a fait pour nous à la croix. Dieu nous aime. Nous sommes au mois de décembre, la fête de Noël approche, et je dois dire que j'aime beaucoup la fête de Noël. J'aime beaucoup l'ambiance qui est autour de cette fête. Tout à l'heure, je partageais qu'une des choses que j'aime bien dans la période de Noël, c'est me balader à Namur dans la rue de fer. C'est une grande rue commerçante, il y a une odeur de cannelle comme ça, il y a des petits chants de Noël, il y a une ambiance particulière. Noël, c'est la famille, les amis, les cadeaux, les repas, certes, mais pour nous chrétiens, Noël, c'est surtout ce Dieu-là. Ce Dieu qui n'est jamais loin de nous dans la souffrance. On l'appelle Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi nous. Dieu est venu dans ce monde de souffrance. Dieu s'est fait homme sujet à la souffrance. Question qui se pose parfois, c'est est-ce que Dieu peut me comprendre ? Ben, on peut répondre, oui, Dieu peut te comprendre, même quand tu souffres, il peut te comprendre parce qu'il est Dieu et parce qu'il sait tout. Bon, ça c'est la réponse, j'ai envie de dire, ça me fait une belle jambe, mais c'est vrai, ça devrait être suffisant. Mais bien plus, Dieu s'est fait homme en Jésus. Il peut me comprendre, parce qu'il l'a été, parce qu'il l'est, parce qu'il est Dieu tout simplement. Dieu est venu dans ce monde de souffrance, il s'est fait homme, sujet à la souffrance, il a pleuré face à la souffrance. Je pense en particulier à Jean, chapitre 11, il y a un épisode où on voit Dieu qui est devant le tombeau de son ami Lazare qui est mort. Et c'est un des versets les plus courts de la Bible. On lit « Jésus pleura, Jésus pleura ». Il pleure parce qu'à la fois il est triste et indigné de notre condition pécheresse, incapable de voir en lui l'espérance, incapable de croire en lui. Mais je crois aussi que Dieu a pleuré parce qu'il est tout simplement capable de compatir à nos souffrances, parce qu'il nous aime. Et ultimement, Dieu a donné sa vie pour nous qui sommes des pécheurs, pour nous qui sommes rebelles à lui. Moi, quand j'ai des ennemis, je me dis, j'ai pas envie de me sacrifier pour eux. Quand Dieu dit qu'il nous aime, ça va jusque-là. Il donne sa vie pour des pécheurs, pour nous qui sommes rebelles. Nous qui méritions seulement d'être traités comme le mérite nos péchés. Parfois, ça peut paraître révoltant quand on parle de la justice de Dieu, mais n'est-ce pas pure justice comme nous-mêmes nous le réclamons ? Quand on nous fait du mal ou quand le voisin nous embête, on est les premiers à saisir le juge de paix. Ou quand un tel nous a fait du mal, on dit « Ah ben tu me dois réparation, tu me dois des excuses ». Est-il donc étrange que Dieu punisse le mal, que Dieu prépare un lieu de tourment qu'on appelle l'enfer, quand nous avons des lois pour punir les criminels et des prisons pour nous y mettre ? À la croix, ce Dieu d'amour se fait justice, en payant ce que méritent nos péchés. Le péché qui précisément est à l'origine de la souffrance dans le monde, dans la création. Voilà le mystère qui est révélé à la croix. Voilà ce qui se passe à la croix. J'ai envie de dire que Dieu renverse la vapeur. en se faisant souffrance, Dieu détruit en lui la source de la souffrance, qu'est le péché. Voilà ce qui s'est passé à la croix. La croix nous a aidés, Aurélie et moi, à traverser ces 4 années de souffrance, ces 4 années d'attente, ces 4 années d'espoir, de désespoir. Nous n'avons pas eu réponse à toutes nos questions, mais nous savions une chose, si ce Dieu-là avait été jusqu'à donner sa vie pour nous, même si nous ne comprenions pas tout, nous pouvions lui faire confiance. Il est digne de confiance. Notre prière a été « Seigneur, nous ne comprenons pas tout, mais nous savons que tu es là. Seigneur, nous ne comprenons pas tout, mais nous savons que tu compatis. Seigneur, nous ne comprenons pas tout, mais nous savons que tu nous aimes. Nous te faisons confiance. » Prière douloureuse. Mais nous avons pu avancer avec l'aide de Dieu. Pour nous, les êtres humains, il est pénible de ne pas toujours tout comprendre et tout maîtriser. Nous, les humains, nous voulons tout planifier, calculer, maîtriser, mesurer, observer, dominer. Nous voulons être Dieu, tout simplement. Et nous voulons qu'il en soit ainsi pour Dieu. Nous voulons d'un Dieu qui est contrôlable, mesurable, quantifiable. Mais si Dieu est Dieu, si sa pensée dépasse la nôtre, est-il étrange que nous ne puissions pas toujours tout maîtriser sur ce Dieu-là ? Dieu n'est pas un Dieu fait à l'image de l'homme, comme les dieux grecs ou les dieux romains de l'époque. Il est tout autre. Pendant ces moments de souffrance, quelqu'un m'a raconté une histoire, et j'ai trouvé cette histoire très pertinente pour aider à comprendre la notion de faire confiance en Dieu dans la souffrance. Et j'aimerais bien vous partager cette histoire. Elle est assez courte. Ça se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Dans un village, quelque part en France, un homme voulait se dresser contre l'occupation allemande. Et il a cherché à prendre contact avec la résistance. Finalement, à force de persévérer, la résistance a pris contact avec lui. Et cet homme a pu obtenir un rendez-vous avec le chef local de la résistance. Ils se sont retrouvés dans un café. Et au cours de la rencontre, voilà ce que le chef de la résistance a dit. Il lui a dit « Si tu décides de nous rejoindre, tu devras me faire confiance. » Parfois, tu me verras en uniforme SS. Je vais arrêter des juifs et je vais même arrêter des résistants. Tu ne le sauras pas, mais j'aurais prévu de les libérer. Parfois, tu m'entendras dire des choses honteuses et racistes. Tu me verras faire des choses qui échappent à ton entendement. Je vais accuser des gens et parfois, je vais permettre que certaines soient fusillées. Mais ce n'est que lorsque les alliés arriveront, lorsque la fin de la guerre aura sonné, que tu comprendras pourquoi. Pourquoi j'ai permis cela, pourquoi j'ai fait ça, ou pourquoi je n'ai pas fait telle ou telle chose. Quand la fin de la guerre arrivera. C'est une belle image ici, une image certes imparfaite, mais une belle image pour parler de Dieu face aux questions que peuvent susciter la souffrance dans notre vie personnelle. Quand il y a le pourquoi ou le je ne comprends pas. Dieu nous invite à lui faire confiance. La Bible nous montre que Dieu est digne de confiance. Il est venu à nous parce qu'il nous aime. Quand on aime quelqu'un, on veut être dans sa présence. Hein ? Quand je courtisais mon épouse, je continue à courtiser maintenant, même si je suis marié, hein, il faut cultiver ça dans un couple. Mais quand on aime, on veut être proche. Dieu est venu jusqu'à nous. Dieu a souffert avec nous. Dieu a souffert pour nous ultimement à la croix pour nos péchés. Et Dieu nous invite à attendre la fin de la guerre. La fin de la guerre, c'est une image pour parler de notre lutte ici-bas contre la souffrance, face à nos doutes, face à nos questions, face à nos objections, attendre la fin de la guerre. Je voudrais tout de même préciser que la fin de la guerre, c'est quelque chose qui est vraiment heureux. La fin de la guerre, c'est heureux quand on est du bon côté. La fin de la Seconde Guerre mondiale a été terrible pour ceux qui étaient du mauvais côté, pour les nazis. Il y a eu le fameux procès de Nuremberg avec des condamnations. Je pose donc la question, puisque la Bible parle qu'un jour cette guerre prendra fin, un jour après la mort on rencontrera ce Dieu. Ou un jour la Bible nous dit, Christ reviendra ici sur terre de la même façon qu'il est venu une fois. Question à se poser quand je serai dans la présence de Dieu, de quel côté je serai ? Du bon côté ou du mauvais côté ? J'ai dit tout à l'heure que la souffrance est au cœur de la foi chrétienne. C'est d'ailleurs ce que rappelle la croix, mais je pense que vous aurez remarqué, la croix elle est vide. Pourquoi ? Ben, en partie parce que nous les protestants, nous ne représentons pas le Christ, nous ne représentons pas Dieu. La Bible ne nous le permet pas, ne fait pas d'image de Dieu. Mais la raison principale, c'est que ce Dieu-là n'est pas resté mort, il est ressuscité. Notre Dieu est plus fort que la mort, il est plus fort que le péché, il est plus fort que la souffrance, il est plus fort que la honte, plus fort que la culpabilité, plus fort que mes peurs, plus fort que mes maladies, plus fort que mon deuil. La Bible nous parle ultimement d'un jour où Dieu établira un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est ce que je disais tout à l'heure, la fin de la guerre. Certains disent que c'est peut-être des légendes. Moi, j'aime bien prendre la Bible. Je crois que j'aurais dû prendre dans mes grosses Bibles d'études. Si vous prenez ceci dans la Bible, voilà. Tout ça, ça s'est déjà accompli. Et ça, c'est le livre de l'Apocalypse. Je pense qu'il y a de solides raisons à croire. Ce Dieu-là s'est révélé. Je trouve cela remarquable, car la Bible parle d'un Dieu qui veut restaurer sa création. Une création qui est en souffrance à cause du péché. Dieu le fait avec douceur. Dieu ne brutalise personne, il n'enfonce pas les cœurs. Dieu le fait progressivement. Je suis encouragé quand je lis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et de voir au fil des siècles dans l'histoire de l'homme comment Dieu opère progressivement, délicatement. Et Dieu ne nous déresponsabilise pas. Dieu ne nous déresponsabilise pas. Croire en Dieu, se savoir pécheur, se repentir de son péché, ce n'est pas le travail de Dieu. C'est la responsabilité humaine. Dieu ne nous déresponsabilise pas. À la question qui était posée, croire en Dieu malgré la souffrance, est-ce vraiment raisonnable? Je pense que la réponse de Dieu est pleine de cohérence. Ce n'est pas, peut-être pas une réponse exhaustive, je demeure encore avec des questions personnellement, mais c'est une réponse suffisante. Quand on ouvre la Bible, on comprend que par amour, Dieu ne nous a pas jugés indignes d'exister malgré le péché et la souffrance. Ce n'est pas l'eugénisme avec Dieu, ce n'est pas la sélection naturelle, ce n'est pas la loi du plus fort ou du plus adapté. Quand j'ouvre la Bible, je comprends que je ne suis pas un accident de la nature. Pouf, on n'a pas fait exprès, on a remboursé des fioles. Non, je suis le produit de la volonté divine. Il m'a créé, il m'a voulu, il m'a aimé. On comprend l'origine de toute chose. C'est facile de dire c'est le fruit du hasard, ça n'a pas de sens. Je ne suis pas d'accord. Quand j'ouvre la Bible, je comprends que le bien et le mal sont des réalités qui existent et qu'elles sont indépendantes de nous. Nous subissons les effets du bien et du mal dans notre vie, tout simplement. Ce n'est pas une invention des philosophes humains, le bien et le mal. On n'a fait qu'essayer d'articuler des choses qui existaient déjà. Quand j'ouvre la Bible, je comprends que la vie, elle a du sens. Dieu m'a créé pour jouir de la vie. Dieu m'a créé pour le connaître, pour vivre une relation en le reconnaissant comme mon roi. Un roi qui est bon, qui prend soin de nous. C'est beaucoup plus que procréer pour assurer la survie de l'espèce humaine, ou, comme diraient certains athées, l'absurdité. Il y a le philosophe athée Albert Camus, pour ceux qui connaissent, c'est quelqu'un qui, face à la souffrance, a réfléchi en tant qu'athée en disant quel est le but de la vie, quel est le sens de la vie quand on souffre. Sa conclusion dans ses livres, vous pouvez lire, c'est absurdité. Il s'est posé la question, pourquoi ne pas se suicider quand on souffre? Je salue cet effort intellectuel parce qu'il est tout à fait pertinent. La vie sans Dieu est dépourvue de sens face à la souffrance. Conclusion athée. La vie a du sens avec Dieu. Certes, nous sommes en état de rébellion à cause du péché, mais de mon vivant, il y a moyen d'agir, il y a moyen de se réconcilier avec ce Dieu-là. Quand j'ouvre la Bible, je comprends ma destinée. La mort n'est pas la fin de l'existence. La Bible dit qu'un jour, je rencontrerai ce Dieu. Un jour, je le rencontrerai. Que j'aie cru en lui ou que je n'aie pas cru en lui, je le rencontrerai. C'est ce que la Bible dit. C'est un Dieu qui nous invite à renouer avec lui, un Dieu qui nous appelle à lui faire confiance, c'est ce qu'on appelle la foi, c'est ça la confiance. J'ai pas encore essayé avec Nathanaël parce qu'il ne sait pas encore marcher, mais j'essaierai plus tard. Mais quand un enfant est sur une chaise et que son papa lui dit « saute dans mes bras », l'enfant a confiance, il saute dans les bras de son père. Il va pas mesurer la hauteur, la vitesse du vent, la force de la gravité, non. C'est ça avoir confiance en Dieu. Un Dieu qui nous invite aussi à nous détourner du péché. Dieu n'est pas venu pour ceux qui se croient meilleurs que les autres et qui jugent les autres, qui se croient saints, qui se croient parfaits. Dieu est venu pour ceux qui savent pécheurs, ceux qui se disent c'est vrai. En même temps, je souffre. La souffrance est une réalité dans ma vie. Et en même temps, je sais que je suis pécheur. Puisque le péché fait à la fois de nous victimes et coupables. On le subit, on subit ses effets et on en commet aussi. Dieu nous appelle aussi à nous repentir. C'est un Dieu qui nous place face à nos responsabilités. Parce que c'est ça, quand on aime quelqu'un, on ne le force pas. Dieu nous place devant nos responsabilités. Croire ou ne pas croire, nous réconcilier avec lui ou ne pas nous réconcilier, bénéficier de son aide ou de continuer avec ses propres forces. Et pour le choix qu'on fera, Dieu nous placera devant les conséquences de ce choix. Un verset, et je terminerai simplement en citant ce verset, c'est Hébreux 9, 27. La Bible dit « Il appartient à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ». J'aimerais simplement alors vous poser la question « Qui est Dieu pour vous ?» après votre mort, lorsque vous ferez face à Dieu, si Dieu vous pose la question « Pourquoi dois-je te laisser entrer au ciel ? Pourquoi dois-je te traiter en ami ?» qu'allez-vous lui répondre ? Le Seigneur nous rappelle et nous appelle à lui faire confiance et à nous détourner du péché. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie pour votre attention. Je vais prier.